Comment faut-il? Que je vous le dise.
Comment faut-il que je vous le dise?
Que je vous le dise.
Vous êtes bien sur Radio Canu au 102.2 pour Mais comment faut-il que je vous le dise ? Une émission de création poétique à base de pop de répétition toutes les deux semaines. Ce soir, on évoque la verdure, le manque de verre, de l'herbe, du verbe vivre. Ici présent, Bat.
Bonsoir.
Et Edgar.
Salut.
Et c'est ainsi que tout commence.
À l'ombre des ombres, sans trop savoir pourquoi, je sens que je tombe et que ma vie décroît. Que ma force inutile, sur de nombreux chemins, se perd et se défile en pensant à demain. Que mes belles années, passées ou à venir, servent une destinée que je ne sais tenir. Ma chair brûle sous le poids du temps sans un cri. Le temps perdu, ce temps qui fait de nous sa proie. Pour me sentir moins lâche dans ma vie trop petite, j'apprends à courir vite, agissant sans relâche. Les complaintes passées s'éloignent de mon cœur, partant avec mes peurs, mes failles, mes excès. Les paysages sombres de mes jeunes années et la peine bien née tirée de sa pénombre. Mes démons prennent l'air, désormais fiers, ils pleurent et viennent en douceur me montrer la lumière.
Je ne fais rien. Il n'y a rien à faire aujourd'hui. C'est difficile à garder, c'est difficile de tenir ça qu'il n'y a rien à faire. Qu'il n'y a rien qui vient à mon secours, rien qui vient m'aider. Il n'y a absolument rien qui vient m'aider. C'est que je ne fais absolument rien, parce qu'il n'y a absolument rien à faire. Je dois résister à tout ce qui voudrait me faire faire quelque chose. Parce qu'il n'y a absolument rien. Alors je dois ne rien faire. Je sais que c'est un moment particulièrement important et propice. C'est un moment dont dépendent tous les événements passés et tous les événements futurs. C'est à partir de ce moment-là, de ce moment où il ne se passe rien, que tout va se passer. Tout va se passer dans le futur et que tout va se passer dans le passé. C'est un moment où il faut que je fasse rien. C'est un moment où je ne dois rien faire. C'est un moment où, s'il n'y a rien à faire, alors je dois rien faire. Logiquement, si j'ai bien calculé, il se passe quelque chose chaque jour. Mais je ne peux pas attendre qu'il se passe quelque chose aujourd'hui. Je ne vais pas attendre parce que ce n'est pas sûr. C'est pas sûr du tout qu'il se passe quelque chose chaque jour. C'est pas sûr. On n'est pas certain de ça. On ne peut pas attendre en étant certain de ça, de ce qui va se passer quelque chose aujourd'hui. C'est pas sûr du tout qu'il va se passer quelque chose aujourd'hui, donc ça sert à rien de l'attendre. Donc je vais pas attendre ça. Je suis pas en train d'attendre qu'il se passe quelque chose. Il ne se passe rien. Et je fais rien. Et je fais rien parce que s'il doit se passer quelque chose, il se passera quelque chose. Mais il ne peut se passer quelque chose que si je ne fais rien. Que si j'attends. Je vais pas attendre que les pensées viennent. Les idées, les pensées, elles ne viennent que quand elles veulent. Elles ne viennent pas quand je veux. Elles viennent. Si elles veulent venir, elles viennent. Si elles viennent, elles viennent. Mais elles ne peuvent venir que si, pendant qu'elles ne sont pas là, je pense pas. Je fais l'effort à ne faire rien. Il n'y a rien à faire. Et je fais l'effort justement d'être celui qui pense rien. Être celui qui ne fait rien tant qu'il n'y a rien à faire. Je n'ai pas d'aide pour ça. Je ne suis pas aidée pour ça, il n'y a rien à faire maintenant. Maintenant, je fais rien. Je ne dois rien faire. Et pourtant, ce qui va se passer dépend de ce que je fais rien pendant qu'il n'y a rien à faire. Donc il faut tenir ça, tenir le rien. On aura envie de faire quelque chose, mais il faut tenir le rien. Je vais pas faire quelque chose, je vais tenir. Je fais rien. Je vais rien faire.
Il y avait un corps et de la brune, mais il n'y avait pas de larmes. Le corps, c'était le mien, dans le lit au ras du sol. Le bruit des plantes résignées et pleurantes du petit jardin inconnu m'avait réveillé doucement. Il n'y avait pas de brume, mais j'en revois le jardin couvert aujourd'hui. Le ciel pleurait pour moi. Si j'avais eu envie de pleurer, automne dehors, automne dans le cœur, mais non. Je n'avais pas envie, peut-être juste un peu de fatigue. La campagne est belle pour cela. Il n'y a que de la pierre et de l'herbe. Elle s'efforçait à vivre au rythme de son rythme. Il y avait la vie dans la maison, qui venait de reprendre, des gens, et la frontière de la porte laissée ouvertement grande. La veille, parce que je voulais faire semblant de dormir dans le jardin, en étant à l'abri, me dire que si j'avais froid pendant la nuit, mais je n'ai jamais froid la nuit, et si peut-être on ne savait jamais, il y avait un bel orage qui me réveillerait, de sa lumière et de son bruit inattendu. Mais il n'y en a pas eu, et je n'ai eu froid qu'au matin. Il y avait la vie dans la maison, qui venait de reprendre, et je n'avais pas très envie de la partager, parce que je n'avais rien d'agréable à dire. Et je n'étais pas bien réveillé, et je n'aime pas que les choses aillent vite sous la pluie. Et j'aime en automne mourir avec la nature. Et j'avais des choses agréables à dire, mais pas là, pas maintenant. Et il fallait que je réfléchisse un peu avant, pour ne pas dire de conneries. Mais surtout parce que je ne savais pas encore si ces choses, je les dirais un jour, ou si je les garderais pour moi. Alors je suis allé dehors. Dedans, c'était le quotidien. Un lever tardif et cotonneux pour tout le monde, avec peut-être chacun ses raisons, et un souvenir commun de la veille, mais aujourd'hui n'est plus la veille. Un petit déjeuner à faire et à prendre, un quotidien que je peux commencer à apprécier. Mais là, pas aujourd'hui, pas envie. J'ai pris quand même un prétexte, une cigarette dont je n'avais pas envie. C'est un peu con, d'autant qu'en prenant ça pour une fuite, je suis sorti, quand il s'est retrouvé que tout le monde avait quelque chose à faire à l'étage. Mais je me suis dit qu'avec un prétexte, c'était mieux. Dehors, c'était l'automne. Et j'y étais bien dans l'automne. C'était du froid qui protégeait comme de la chaleur. C'était tourner en rond parce que le jardin était minuscule. C'était choisir si je marchais un peu sur l'herbe, juste un ou deux pas, parce qu'il n'y avait pas la place de plus, ou si je restais sur le gravier plus petit encore. C'était une goutte parmi les gouttes d'un fil d'étendage qui faisait loupe inversante quand je la regardais de très près. J'avais fini ma cigarette, mais j'ai continué à me rapprocher, sans pourtant réussir à me voir ni grossi, ni tête en bas. Du coup, j'en ai oublié de réfléchir. Mais ça n'était pas très grave parce que je savais bien que ce temps, je le prenais forcément plus tard. On ne décide pas de tout. Et c'est tant mieux. Je suis rentré sans trop de prétexte apparent parce que je ne voulais pas paraître trop asocial, ni impoli, à force de ne pas aider au quotidien partagé. Et pour savoir si quelqu'un, par hasard, n'avait pas quelque chose à me dire, on ne sait jamais, un truc, n'importe quoi, quelque chose qui égratigne avec douceur, une écharde qui fait sourire parce qu'elle va occuper quelques heures à trouver comment faire pour se l'enlever. On m'a parlé, mais ce n'était pas ce que j'attendais. Je n'attendais rien de précis. Ça aurait été dur. Je ne me souvenais plus qui prenait du thé, qui du café. Alors j'ai fait une petite blague pour faire passer ça, et je ne sais plus si on a ri, ni si la blague était bonne, parce que l'on s'était assis et de la cuisine, en face de ma place, je voyais encore le jardin, et je me sentais encore là-bas, à moitié ici, et à moitié avec l'envie d'y retourner. Je n'écoutais pas bien, et je ne sais plus si l'on parlait beaucoup. J'avais le dos au mur, et derrière le mur, il y avait l'autre côté de la maison, avec ses escaliers, son village, sa route, et des gamins avec un chien blanc à taches noires. C'était un côté qui ne m'attirait pas trop. Mais je le sentais derrière mon dos. Je suis allé fumer une cigarette de ce côté. La grande cour ne se différenciait pas vraiment de la route et servait de parking. Il y avait 6 ou 7 voitures posées un peu en vrac et je suis resté très collé contre le mur, en bas de l'escalier, parce que je ne voulais pas avoir à traverser entre les voitures, parce que je sentais que quelque chose allait mourir en moi et que traverser en zigzag entre les portières qui se touchaient presque aurait accéléré cette mort. Et je savais que je ne pourrais rien y faire, que les sensations ont une disparition tout aussi inexorable que celle des hommes, mais que si juste je pouvais gagner un peu de temps pour mieux la connaître, pour la laisser mourir de sa belle mort, découvrir peut-être son nom avant sa fin. Je suis rentré et tout était fini. Et chacun avait quelque chose à faire de différent, ailleurs, avec d'autres gens. Et chacun était déjà dans cet ailleurs. Tant mieux, ça m'a facilité les choses. Nous sommes partis à trois dans la voiture, pour un court bout de chemin. Je n'ai pas parlé, je n'avais pas envie. J'avais juste envie d'être tout seul. Pas possible, pas grave. Je me suis emmuré dans les collines, et dans le brouillard déchirant, ses lambeaux aux arbres, et j'ai regardé la route.
La drogue est bonne. La drogue est bonne. Droguer, c'est le lien. Droguer, c'est la bonne est une drogue. Il l'aime. La drogue est bonne. La drogue donne. Droguer, c'est va vers la bonne drogue. La drogue bonne donne du bonheur. Droguer a vu le lien. La drogue est bonne à droguer. Droguer, c'est aller au bon. La vie va vers le bon. L'aime. Connais le lien entre droguer et le bon de la bonne drogue. Droguer donne de la bonne drogue. Droguer va vers la bonne drogue. La drogue sait donner. Droguer a un lien avec la drogue. La drogue donne. Droguer connaît. La drogue est bonne à donner à droguer. La drogue est bonne. La drogue est vraiment bonne. Est un bonheur. Droguer va vers le bonheur. Le bonheur va vers la bonne drogue. Droguer sait le lien entre le bonheur. La drogue aime le bonheur. La drogue donne à droguer. Droguer, c'est le lien entre l'amour et le bonheur, le bon lien, le lien qui aime le lien, il aime. Droguer, c'est où est la bonne drogue. Droguer, c'est comment trouver le bon. C'est le bon. C'est bon de savoir où est le bon. Droguer, c'est trouver la bonne. La bonne est la drogue. La drogue est bonne à donner. C'est bon de donner la drogue. C'est un bonheur de droguer, si bonne. Droguer sait que la drogue est bonne. Droguer sait le bonheur de donner. le lien à l'envie de la vie qui veut le bon. Heure, la drogue est bonne, droguer c'est le lien entre le bon et la drogue. Le bon est drogué, drogué est bon.
Lenteur, confusion parfois, due au traitement que je reçois. J'en ai conscience comme un plongeur ou un alpiniste, et j'en ai besoin. Je me débarrasse d'une ivresse par une autre, d'une mort par une autre mort, du vide par le vide. Ma voix contredite ne passe, pour l'instant, que par ces voix contrariées d'éclipse. Je me suis réveillé vers 4 heures du matin, mais ici je n'en suis toujours qu'au matin, qu'au début. Dans le long couloir, j'ai croisé René, à qui j'ai serré la main. On n'a rien dit. Chacun est allé dans sa direction, jusqu'au petit jour, sans entrer nulle part. Chaque jour serait une équation à résoudre, mais les termes varient sans cesse, compliquent la recherche, annulent d'autres résultats. Ce n'est qu'un lieu d'approche, pas de rencontre. Il me manque toujours ce qui aurait pu être, et qui peut-être a été. L'homme en pente, la maladresse de dire « je », de savoir « si ». Une fois pour toutes, le défi est d'en arracher la première page, de la mêler au livre, quelque part dans le hasard. Chaque fois, il faut extraire les mots de là où ils sont, puis les mettre en langue. Et peut-être alors, quelquefois, nous sommes en attente de ce qu'on croyait voir venir, mais non, il arrive autre chose et il faut tout refaire, de soi à soi, jusqu'au moment où il y aura quelqu'un. On cherche un habitant qui n'est plus dans la maison. Pourtant, n'est-ce pas lui que l'on aperçoit à l'orée de ce qui est, ne sachant pas où il va, de dos, faisant un signe d'adieu ou de reconnaissance, un signe, c'est tout pour les jours passés, pour ceux à venir. N'est-ce pas l'homme qui penche, vu de trop loin maintenant, ou trop tard? Dans peu de temps, il va me falloir revenir d'où je viens, le travail, l'appartement, la ville. Choses qui sont là, toujours, si peu du dedans, presque rien du dehors, à moins que... Comme le drosera ou l'orchidée. Mais l'un tue et l'autre n'est qu'un leurre. Janvier 1997, retour au CHS de Cadillac, pavillon Charcot. Cette fois, je n'ai apporté aucun livre, seulement de quoi écrire. Je retrouve les jardiniers qui aspirent les dernières feuilles mortes et commencent à tailler les arbres. Denis, lui, est encore là. Il va mieux. D'autres sont arrivés à un morceau de parole cassée à la main. C'est que l'habitant n'avait rien confié ni précisé avant de partir. Pourquoi l'aurait-il fait? Il n'avait rien promis. 6 heures du matin. Des gens parlent au fond du couloir. J'ouvre les yeux sans trop savoir où je suis. Je fixe un des carreaux blancs du plafond. Il est trop tôt pour se lever, trop tard pour se rendormir. Est-ce qu'ici est encore loin? J'aurais besoin de marcher un peu, mais pour l'instant cela m'est interdit. Je reste en chambre, en écriture. Quelquefois Denis vient me voir. Cela fait 8 mois qu'il est là, comme un postier ou un commissionnaire. Il pourrait sortir davantage, aller certains jours en ville pour que les autres aient du tabac ou d'autres choses. Mais hors de ces murs, il y a quelque chose d'inexpliqué et d'improbable qui lui fait face. Depuis quand cela s'est-il installé? À quel moment? Je ne sais pas encore. Je sais que j'entends le silence d'une autre manière, qu'il m'est plus facile de le supporter ici que d'en subir le piétinement d'où je viens. Le vrai travail est d'être aussi vide que ce temple. Je ne sais pas si ma place est ici, ni ailleurs, avec parfois quelque chose d'autre qui m'entraîne à écrire. Les gens ont souvent les yeux et les oreilles inversés ou sans existence. Ce que je vois n'est jamais complet. Silence et mots sont nos bûchers. Que dire de soi? Le brasier? L'abreuvoir? Et mourir? Non. Qu'on regarde nos mains. Chaque matin, c'est l'inventaire, la tournée des chambres. On se salue, on change les draps, les tais, on donne du convenable et du propre. On refait la literie. L'herbe pousse, les oiseaux passent. Mais tout ce qui est dit n'offre aucun passage. Alors on attend le café et le pain devant une porte. Seules les horloges ont le temps d'avoir le temps. Aïssa n'est pas là depuis longtemps. On s'est tout de suite rapprochés l'un de l'autre, comme de vieux marins. Il souffre de l'estomac, mais ne se plaint pas. Pourtant, il ne dort jamais. Quelque chose cogne dans sa tête depuis les années qui troublent sa vue et son sommeil. Cela ne l'empêche ni de jouer de la guitare, ni de chanter, ni de sourire, ni de rire. Il n'a pas déserté son être.
C'est marqué déposé, j'étais pas imprudente. Et sérieusement, mon cerveau débilé comme le... Eh, je vais recommencer. Hop, ça se passe comme ça, ça se passe comme ça. Radio Canu, Radio Canaille, yeah, yeah, yeah. On recommence, bam. Choc.
Ses yeux brillants, sans aucune source lumineuse alentour, qui vous perce à jour, sans vous le faire sentir. C'est la somme de ses intelligences qui se dessine au coin de sa bouche, dans l'esquisse d'un sourire, comme dans un éclat de rire, franc et démesuré, à la mesure du bouillonnement de ses sentiments. Morsure, je bois, à la commissure des lèvres, le tremblement d'une approche verbale, retenue par la pudeur d'en dire trop, par la volonté de laisser deviner en contrepoint ce qu'elle désire faire transparaître de ses intentions vraies. Je l'aime, et je plante une haie autour de son corps pour que le vent nocturne bruisse en son sommeil. Elle m'emporte dans son sillage, et je ne saurais dire qui, d'elle ou moi, est l'autre. dans un battement de cils imperceptible, au cœur de mon cerveau, dit « Tu veux bien jouer avec moi ?» On s'attache à ses vêtilles, on se déshabille et on oublie la réalité glacée. On triche et on s'accroche comme une cédille. Sans en avoir l'air, on voit ce que l'une balaie sur son passage. Ce que l'autre vit n'est pas celle qu'on croit, possédée comme un talisman, mais celle qu'on convoque au moment de la rencontre, sans savoir encore qui s'affronte, pour où et jusqu'à quand. Sans connaître le langage à propos, nous inventons de nouveaux gestes. Subséquemment, nous vivons. Cette parole est la mienne. L'autre suivra. Nous nous sommes déshabillés, lentement, mutuellement. Je me souviens encore de tes yeux, perçants, faisant des trous dans mon corps, à mesure que nos vêtements tombaient. Du bout du tison, la cigarette brûle. Ma langue ne tenait pas en place. Non que je l'utilisasse à former des mots, qui à l'instant n'auraient su s'objectiver, happés par une abstraction bien trop vaste, qui de toutes parts les borde et les fait déborder d'eux-mêmes, s'installant en leur sein, sans qu'ils ne signifient plus rien. Ma langue parcourait des pieds à la tête ton corps, et mes doigts fouillaient à l'intérieur de toi l'espace sans y pénétrer, à la recherche d'une aspérité pour s'y amarrer. Mais ta peau était si lisse que je ne cessais d'y glisser, enveloppé jusqu'à l'étouffer par l'extrême douceur de cet épiderme, étant aussi le mien au moment du contact. Enveloppe qui n'était pas un appendice, surface sous laquelle palpitait une chair affleurant par endroits, sous la pression des doigts, demeurant néanmoins pour moi inaccessible et à laquelle je m'aliénais, fébrile et agité, comme deux aimants maintenus face à face, déviant toujours de côté, repoussés par leur force commune. Ce fut une tornade maintes fois recommencée, avec les mêmes émois. Comme si la surprise, loin d'être épuisée, restait, malgré leur répétition, intacte. Au matin, nous nous regardions, et c'était un supplice jusqu'au soir que, dans nos activités citadines, de te savoir nu, sous des habits qui ne te couvraient plus, tu me fis goûter au vertige d'un délice qui aujourd'hui s'est tu, épouvantail au bord d'un précipice, qui pour toute chair, factice, ne récolte que les colibés des corbeaux railleurs. Tu m'as faite telle que je suis, fuyante, à la recherche d'une étoile.
L'insensé je suis. Je puis, je dis, comme cet instant là en ce moment, écoutez briser le ciel et le silence. Inconnu de mon enfance, je parais et je paie. Liberté de quoi, dit-on ? Parlons-en de nos toujours, avenir des uns, des autres. Parjure devant notre vie et puis je range, je suis lave-vaisselle. Ces poussières, ces merveilles qui m'épuisent, dites-le, je me meurs. De leurs mots, de leurs mots. Comment subir sans peine et à quelle haine se vouer ? Je tremble en douleur, je tremble en douceur, triste hantise, pauvre grêle, je me lèche et qui me prise, délicate et grise, comme le pardon, alors je sais, alors je mets des boutons de gâchette sur les chemises. Je m'avance et je fais cette grise mine, par tous les cœurs et non les dieux, j'explose toujours lorsque je ne suis plus d'eux.
Grave est ce que nous réclamons et que nous n'atteignons pas. Le brouillard est ainsi tendu sur la terre, deuil de nos yeux perpétuels, ténèbres à l'endroit du poème, épousé comme on épouse la marche. À croire que la démesure n'est pas souveraine pour nous précipiter là où nous guettons. À croire que la chimère n'appareille jamais en nos terres et que nous ne le savons pas. La dédicace des mains portait la nuit à la fluidité, mais les feux dévoués devenaient corps de cendre, où s'agrandissaient déjà quelques étoiles. Les coups qui comptaient les heures, ou des pas, ou des hommes, étaient-ils ? Ou bien dans leur atelier caressaient-ils le désastre ? Quelle agonie de la terre sous le jeu de la neige, irréel territoire où l'imaginaire obsède la servitude. C'est le leurre de l'arbre ployé entre la pesanteur et le prodige de l'oiseau, montrant son cœur rouge et qui a faim. Mais c'est aussi le terrier tourné vers le printemps, qui pousse dans la branche aux appétits futurs. Affirmer l'aurore, c'est rebrousser chemin. Garde la nuit pour appartenir aux hommes de danger et de maigreur. Mais pardon à celui qui ouvre à l'abeille le champ de son pain couvert de miel. Nous enfermons nos plaies qui viennent le soir gratter aux vitres. Nous leur donnons la répétition des feux, nous ne les aimons pas. Les chasser élèverait le silence jusqu'au tocsin. L'âge infini des choses est en exil. Nous sommes devenus champs d'hiver. Comprends ce qui m'occupe, c'est le maintien de l'orage ivre. Il y a des jours pour recouvrir son corps illisible et devenir aveugle. Devant et dehors, où poussera la neige, sur le rebord des fenêtres sans oiseaux, que restera-t-il à faire, sinon à féconder le silence et la halte, pareillement au sang et à la cécité des nappes phréatiques. Passant portant à mort ignorée, le jour s'allonge. Loue ta maison présente pour apprendre à reconnaître qui parmi les visages est celle qui te ressemble, celle qui est ton nom et signe un autre. Elle est l'autre partie d'où viennent les louables peurs, la graine aux futures racines, sous ta peau.
Regarde comme la carotte doit être grosse.
J'arrive pas à les enlever.
Pouh, quelle saleté. Faudrait presque l'enlever avec...
Mais regarde-moi ça, il y en a partout là.
Mais ça étouffe les plantes, ça s'enroule autour, ça les étrangle.
Encore une.
Ah bah j'en regarderai ça demain, tiens. Tiens, regarde les feuilles, tu vois.
Regarde là.
Mais pareil, ce machin là, d'habitude, je le coupe un peu.
Regarde, mais regarde, regarde là.
Puis je les tire, puis je les fais pas crever parce que j'enlève pas la racine. Faudrait que j'enlève...
Tiens, tu vois ça? Je sais pas, c'est des rejets.
Oh.
Ben dis donc.
C'est pas croyable.
Faudrait revenir quoi, faudrait donner un petit coup de... Tu vois tout ça là, ça c'est de l'herbe.
Tiens.
Faut que je vienne, surtout que là, on est à l'abri du soleil.
Saloperie.
Va voir vers les rosiers à l'entrée, y a de l'herbe là qui pousse partout.
Je l'arrache mais ça sert à rien, c'est comme la racine est dans la terre, ça repousse.
Ouais, puis ça étouffe. Tiens, les machins là, ils vont se mettre en fleurs je crois.
Ouais.
Ah, y a pas de bordure là.
Il y a des tas de trucs. Hein. Il faut que j'aille à la... Non, mais t'as mis le... Mais t'as mis ce qu'il y avait... Mais dans la brouette, t'as dans un truc, non? Qu'est-ce qui s'est passé?
Non, derrière la haie, là.
Mais t'as mis aussi encore derrière la haie? Non, sérieux?
Bah, je savais pas où le mettre.
Enfin, Dieu! Mais ça va être un vrai coin de... merde.
Ça, je vais emmener tout ça au cimetière, dis pas ça, là.
Moi, ça me débarrasse. Hein.
Et puis, y a pas à y monter aux poubelles. Ils se débrouillent comme ils font, les jardins.
Ah, j'ai regardé mon émission. Je l'ai loupé à moitié.
Tiens, tu vois, c'est là qu'il faut passer la trottinette.
Puis je couperais déjà les fleurs fanées, là.
Ah bah attends, faut que je mette un coup d'eau et pendant que j'y pense... ouais, c'est ça.
Ce que j'ai planté ce matin, là, le truc...
Ah, mais ça suffit.
Je l'ai mis là. Je sais pas si ça va faire quelque chose.
Il y en a deux, là, malheureux.
Les courges. Hein, les courgettes, on va en avoir. On va être dégoûtés. Tiens, les petits œillets. Ah bah tiens, va donc chercher un tout petit peu... Pas plein, hein, un petit peu, dans le seau, là, derrière, là.
Ouais,
là.
Merci.
Oh, tu l'as chargé, ouh, c'est trop lourd.
Regarde les dahlias comme ils ont poussé. Puis les autres, là-bas, est-ce qu'ils vont monter? Autrement, on mettra au bout, au-dessus, si ça monte, on mettra quelque chose.
Mais on dirait que c'est pas très tendu, là.
Non.
Mais...
Ah, ça ira.
C'est-à-dire, on peut défaire les piquets et puis les...
Les remettre, quoi.
Bah ouais. Elles n'ont pas besoin d'eau, hein.
Non.
Regarde les cosmos, il y en a même trop.
Bon allez, les courgettes, et puis il faut que je les retrouve, des piquets. Tiens, je les ai attachés cette semaine, regarde tout ce qu'ils ont poussé. Regarde, je les ai attachés cette semaine.
Tu vois? Faut que je les rattache. Puis j'ai laissé une branche. Il y a pas mal de fleurs, hein.
Une branche.
Une branche.
J'en ai peut-être laissé beaucoup quand même, non?
Faut que je les rattache.
Bon, c'est pas grave.
Eh, le jardin, il est pas trop moche, hein?
Bah, il est pas trop moche, ouais.
Et quand on va tondre, on mettra la tonte là-dessus, comme ça. Ça va vraiment étouffer, et puis ça...
Ça restera à peu près propre.
Tiens, regarde le fuchs. Le machin, où il est?
On va laisser.
Ils vont devenir...
Fais de mal à personne.
Oui, mais il va devenir comme ça.
Non,
il va gêner
non,
la tomate.
Non.
Mais quand
non.
on cueillera les tomates, on va être emmerdé.
C'est pas grave.
Ah bah... Mon vieux.
Bon, je ferai ça demain, si je peux.
Ah bah, le truc, il est presque pas plein, ça m'étonne.
Non, mais t'avais pas mis le...
Ah oui. Ah bon.
Que penser de toi, petite peste? De qui es-tu l'allié? De qui l'ennemi? Petite garce qui met le monde en émoi. Altière Carmen qui défie la terre de son impertinence depuis le recoin miteux d'un marché de Wuhan, ou sale gosse qui réclame sa paire de gifles. Tel est le principe du personnage d'Abdallah, t'enfermer dans ce rôle qui te répugne, où transpire ton impuissance, le vide de ta force. Geste antithèse du châtiment corporel. Que penser de toi, petit brin d'ARN né de tête couronnée qui, comme souvent dans l'histoire, à force de consanguinité et d'autres froids calculs matrimoniaux, se trouve impuissant à se reproduire par lui-même, contraint de se remettre aux autres pour accomplir l'acte fondateur de ta descendance? De qui prônes-tu l'éloge, parasitisme ou confiance? Tu ne prospères jamais mieux que dans l'énergie et la chaleur des organismes ou des états voisins. tels sont ceux qui te procurent la force de répandre le mal où tu te serais trouvé incapable de le porter toi-même. Ton nom, on aurait pu t'en trouver de plus poétique ou de plus éloquent. Pneumopathie pangoline, batmanalgie respiratoire, influenza sino-orientale. Un très élémentaire syndrome de Wuhan aurait suffi à dégager une charge d'exotisme et d'inconnu mieux à ta mesure. Non, tu n'hériteras pas de ce nom au parfum de fantastique et d'Asie. Tes découvreurs t'ont d'ores et déjà enfermé dans un petit vocable du siècle, conglomérat d'une abréviation anglo-saxonne, ça va de soi, et d'un numéro. Dès demain, le Covid-20 s'emparera de la toile et s'empressera de faire oublier l'épidémie du jour, reléguant nos aïeux au rang de nouveaux poilus, morts d'un virus n'ayant plus cours le lendemain. Et c'est bien volontiers que je m'accuse ici de l'empreinte d'un alexandrin demeuré fort à propos. Qu'aurait écrit son auteur de tout cela ? Car ni ton nom, ni celui de ton règne ne laissent encore de doute. SARS-CoV-2, Covid-19. Il n'en faut pas davantage à la naissance d'une dynastie. Te voilà nourri du sang des Henri, des Louis, des Richard, des Philippe, des Édouard, déjà maîtres de la France, de l'Espagne et de l'Angleterre. Mais rien ne semble en mesure d'assouvir ta faim et ton empire dévore les provinces et les pays au rythme des avions et des soubresauts de la bourse. Plus terrible qu'un Ivan, plus grand qu'une Catherine, qu'un Pierre ou qu'un Alexandre, plus magnifique peut-être qu'un Soliman, plus universel qu'un Khan, Gengis le premier. Tels sont les auspices de ton règne, toi qu'on a baptisé pour tirer profit de la loi des séries, frère d'armes d'un Rocky, d'un Rambo ou d'un Shrek, un distinct cousin de la Clio 2, du Pentium 4, de l'AMA M45 des Pléiades ou du gène MC4R impliqué dans l'obésité. Mesure de l'infinie complexité du monde, défiant la petitesse de l'imagination de l'homme. Ta vie ressemble à s'y méprendre à celle de Charles II d'Espagne, l'air de ne pas y toucher, ton minuscule passage sans faste ni gloire, autant que ton impuissance d'apparat auront répandu le chaos à travers l'Europe entière. Au grand de ce monde qui te croyait par trop insignifiant, tu as crié « me voilà ». Et comme Carmen et Abdallah, tu as foutu un sacré boxon dans la doxa bien rangée de l'idéologie dominante, et néanmoins un bout de souffle, quoique pas encore assez pour s'en convaincre d'elle-même. Bien sûr, tu as laissé un paquet de cadavres en chemin, et ça, personne ne t'en félicitera. Mais au fond, combien moi que d'autres faucheurs adoubés de notre monde. Si derrière ton masque, les moins clairvoyants n'ont choisi de ne voir de ton visage d'intrigante orientale que le pauvre œil d'une grippette sans charme, qui osera comparer tes méfaits à ceux de l'alcool, du tabac ou de l'automobile ? Seras-tu plus condamnable que les maladies coronariennes ou les AVC de la malbouffe ? Que les quelques derniers conflits armés, que les dégâts collatéraux de sanctions économiques, parfois appelées mesures, tous froidement légitimés par des intérêts dictés par un paradigme aveugle à l'accumulation des faits et de leurs conséquences, celle du réchauffement climatique en premier lieu, d'autres encore ? Combien la petitesse de nos préférences nationales hurle à nos oreilles et demeurait sourde notre impuissance à nous penser partie d'humanité ? Une est sublime. Sublime parce qu'indivisible au-delà de tout. Mieux que l'atome d'Empédocle, mieux que ne le disent nos sexes, nos couleurs de peau, nos religions et nos idéaux. Et ce, quoi qu'en pensent les nouveaux nazis et les cadres du Parti communiste chinois. Dans cette première phrase, le mot « et » est le seul à mériter une majuscule. Saurons-nous voir en retour ce qu'il y a de bon à tirer de ton affreuse hôte de Pandore, petite peste ? Saurons-nous goûter cette immense respiration du monde, un instant libéré de tant de besoins insensés ? Combien de litres d'essence et de déchets plastiques évités ? Combien de mails inutiles restés à l'état non écrit, peut-être non pensé ? Combien d'achats superflus relayés à plus tard, peut-être à jamais ? Combien d'euros et de dollars ? Combien d'heures et de jours économisés ? Oui, je le répète, économisés et non perdus. Telle est la question que pose le grand silence installé à nos portes, invité surprise de nos quotidiens impréparés. Ami, entends-tu le doux chant des oiseaux dans la plaine ? D'où nous viennent ces notes nouvelles ? Se sont-elles approchées davantage ou n'est-ce que l'effet de la rumeur soudain disparue, celle qui la semaine dernière encore couvrait leur voix ? D'où nous vient tout ce bleu ? C'est la question que pose la grande absence des traînées blanches ternissant l'azur au cul des avions. Faut-il raisonnablement maintenir en l'air des tonnes de métal sans passagers ou si peu, dans l'unique objectif de conserver un slot, quand la pénurie des réserves naturelles n'est plus une interrogation ni celle de l'accumulation outrancière des degrés Celsius, que nous pondons mieux que des poules séquestrées dans un élevage en batterie ? Que faisais-tu hier avant de te trouver confiné par un ennemi 10 à 20 millions de fois plus petit que toi ? Creusais-tu toi aussi la fosse commune dans laquelle les degrés en plus jetteront demain tes mômes ? Et tu l'as creusé en riant, n'est-ce pas ? Tes mômes agenouillés sous le joug des degrés, tenus en esclavage par les vestiges de ta consommation de carbone. Héritage ? Jamais ce mot n'aura été plus ambigu. Est-ce qu'enfin cette pause ridicule de deux petites semaines, de deux petits mois, de deux petites années, peut-être invisible durée dans l'histoire de l'humanité, va enfin nous laisser le temps de réfléchir aux questions qui menacent notre avenir commun ? Est-ce qu'enfin tu vas lâcher ta pelle et te saisir d'une bêche pour planter un chou, une carotte, un poirier, une rangée de panais, un pied de groseillier, un fruit pour l'avenir ? Je suis autant que toi, ce tu. Et cela, nous le savions déjà, nous sommes au pied du mur, mais nous disposons désormais d'une image tangible d'autres mondes possibles. Alors bien sûr, tu as semé l'horreur un peu partout, petit Covid-19, pneumopathie pangoline, Batman algie respiratoire, Carmen ou Abdallah, mais tu auras aussi fendu la mer en deux pour nous permettre d'entrevoir les chemins cachés, quelques issues de secours peut-être à nos esclavages quotidiens, nous laissant en retour la responsabilité immense de briser les chaînes qui nous retiennent encore, mais dont nous ne pouvons nier l'existence à présent. Seras-tu prophète, conteur d'avenir, plaie et libérateur d'Égypte à toi seul ? Ton legs revêtira-t-il à son tour la forme d'un décalogue ? Que nous diras-tu, petite peste, que nous ne saurions entendre ? Le silence est possible, la sobriété aussi. L'essentiel est sans cesse menacé par l'insignifiant. Nous ne sommes ici que de passage. David peut vaincre Goliath. La mort est une chance, celle d'une place donnée à nos enfants. Nous n'avons qu'un devoir, laisser l'héritage le plus léger qui soit, un espace de possible, le reste est sans valeur, poids ou handicap. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Nous ne sommes plus dépendants de la terre, du socle où nos pieds reposent, que nous l'avions cru. Dépendants, c'est-à-dire reliés. Le thé est déjà prêt, la rivière joue des rythmes de xylophone, rire et bavardage font concurrence au mantra du vent. Il paraîtra sage de s'éviter la prétention d'un dixième commandement. Dans une première version, emporté par le flot de l'écriture, ou en d'autres termes, par ma détestable inclination à l'emphase, j'avais ajouté « Mais n'espère rien de l'homme s'il travaille pour sa propre vie et non pour son éternité. » Je me renie sans honte. L'affection sincère que je porte à son auteur, comme à son livre, ne peut suffire à taire mes interrogations. Hitler et Staline ont-ils travaillé à leur propre vie ? Au contraire, n'ont-ils pas voué leur existence entière à la réalisation d'un rêve dément d'éternité ? Cette dernière n'est-elle pas chevillée au corps des absolus que réclame tout idéal ? Tel est le prix véritable des perfections rêvées. Une fois atteintes, elles ne se peuvent conserver que dans une fixité absolue, condamnant le monde au gel éternel. Exit Darwin. Mais cela aussi, nous le savons, ce n'est pas la bonne voie. Car voilà quelle est la tromperie des absolus. Dans l'espace du monde que la vie se réserve, la poésie vaut mieux qu'un idéal. J'en tiens pour preuve ces deux alexandrins que j'emprunte toujours eux-mêmes. Gloire à qui, n'ayant pas d'idéal sacro-saint, se borne à ne pas trop emmerder ses voisins.
Je fais de la verdure. Je fais de l'espace vert avec de la salade, avec des feuilles de salade. Mettre le plus possible de vert. Augmenter tout ce qui fera plus de vert pour faire le plus grand espace de vert possible. Mettre de l'herbe verte. De la salade verte, des feuilles vertes, le plus grand nombre de différentes sortes de feuilles de salade entières, les plus grandes possibles étalées. Je fais de l'espace. J'augmente l'espace de verdure en déposant le maximum de salade verte dans un maximum d'espace, en mettant ces feuilles de salade verte, en les étalant pour qu'elles prennent le plus de place possible avec un grand nombre de feuilles de salade verte qui donnent un maximum d'espace de verdure. Plein de salades vertes pour faire un vaste espace entièrement vert, couvert de différentes sortes de salades, pour prendre le plus grand espace vert possible pour faire du vert, pour faire vert.
Acheter de la terre, on n'en fait plus.
Je suis assise et je regarde. C'est l'heure où les enfants sortent de l'école. Un couple au milieu de la place très vaste s'enlace et s'embrasse. Est-ce que ce que je fais, ce que je montre à voir, est tributaire du jugement de celui ou celle qui regarde ? On se sent épié, analysé par des regards qui érigent les barreaux de notre propre cage. L'homme et la femme s'embrassent, longuement, sans réussir à libérer un espace entre leurs deux corps. Fusion. Quand j'agis, je pense à mon action avant, mais pendant, je n'y pense plus. Après, je l'envisage à nouveau. N'ai-je pas été trop ceci, trop cela ? Mes gestes et ma parole auront tissé une situation au sein de laquelle je suis désormais pieds et poings liés. Pour celui ou celle auquel je fais face, quelle en aura été l'interprétation ? Chacun de nos actes prend soudain tout son sens narratif quand on le place sur le fil chronologique de notre devoir à être. On imagine avant, on imagine après. L'instant nous semble alors en lui-même insoutenable, ce moment de latence entre deux actes quand tout est dit et que rien n'est encore fait. Le couple enlacé tourne sur lui-même au rythme d'un slow imaginaire. A-t-on vu ou croit-on voir? Est-on vu autant que nous voyons? De l'autre côté de la fontaine, des hommes se sont installés avec une caméra sur trépied, matériel de son, l'objectif braqué en ma direction, plus au-dessus, vers le haut des architectures et le ciel. Une femme très apprêtée, fossile, grande créole, cheveux courts à la garçonne, gominée, noire intense, épousant la forme parfaite de son occiput, est assise sur un banc en face. Elle se regarde dans un miroir de poche. Le soleil de derrière les hauts immeubles étire encore difficilement ses rayons sur la place. Les enfants sont sortis de l'école depuis longtemps, égrenant au fil de leurs pas, d'une voix aigrelette et animée, les aventures de leur journée. Derrière moi, un bébé vagit. Les grilles par lesquelles nous regardons tombent sans plus savoir si c'est notre entourage qui les a construites autour de nous ou si c'est bien plutôt notre appréhension qui, en un excès de prudence mêlé à de la pudeur, nous empare de tous côtés. Le monde est fou. Cette objectivité dont on nous rabat l'existence à la manière d'une vérité stable se délite. Qu'appelle-t-on la normalité? Est-elle envisageable ou même souhaitable tant son despotisme semble dénier la richesse d'une réalité protéiforme? L'être humain joue avec son corps, avec ses pensées. Tantôt un, tantôt multiple. La lecture que nous faisons de cette lettre qu'est la vie n'est assignée à aucune résidence. Ce que nous croyons vrai est imprécisément juste, car quand nous rentrons en contact, nous nous frottons alors à un univers de sens insoupçonné. Les images défilent et nous sommes cloués à notre siège comme au cinéma quand la grande surface de l'écran déverse sur nos visages, tour à tour, frappés d'ombre et de lumière, la narration projetée. Nous sommes les spectateurs attentifs de la chose en train de se faire, consommateurs d'un temps séquentiel fractionné en autant de tableaux que de secondes prenant vie. Un pas de côté et toute l'intrigue dégringole. Les liens si solidement amarrés, un pas de côté et... Pardon. Les liens si solidement amarrés à notre crédulité rompent. Nous sommes nus face au monde, bobines d'images tournant à plein régime, sans plus de cohérence feinte, avides. Au début, on se demande à quoi se fier, et puis on s'aperçoit que ce n'est pas la bonne question, qui serait plutôt comment y prendre part, comment s'insérer dans ce flux incessant, comment le comprendre pour pouvoir poser le pied sur une surface non mouvante, même si celle-ci, telle une plaque détachée de la banquise, est emportée par le courant. Quelle forme, quel visage, quel trait donner à cette fantasmagorie que nous nommons l'existence? Jeu de masques, d'actes joués ou non joués, système de code à déchiffrer, d'attitude à décrypter. Je suis allongé dans un champ, des têtes humaines et animales de profil défilent, juchées sur des corps sans que je ne réussisse à arrêter mon jugement sur ce qu'est être un homme. Sur lequel de ces corps braquer l'objectif, en vue de quelle signification? Mon esprit s'émousse. Nous nous rendons malades pour appartenir à un groupe, pour se sentir y appartenir et ainsi conjurer le sort d'une possible exclusion que nous nous ingénions à mettre en œuvre avant même qu'elle soit effective. Peur de l'isolement et pourtant incapacité à agir au sein d'un groupe. Ceci sonne-t-il le glas de notre inadaptativité? Ce sentiment nous exile-t-il de cette sainte normalité? Est-ce à cet endroit que le drame se noue? Je ne vois plus le couple.
Voilà, et c'est déjà la fin de l'émission. On va prendre 3 minutes pour dire un peu ce que vous avez pu entendre ce soir, mais il y a le Canu Info après. Donc voilà. Et ben oui. Bat, vas-y, je te laisse la parole.
Bah, on a lu des textes. Edgar, tout à l'heure, a lu un texte de Demian Kerel, qui est un auteur parisien. Moi, je vous ai lu un texte, L'humide, de Jean-Baptiste Cabot. Donc vous pouvez retrouver le travail sur Jean-Baptiste Cabot avec un D à la fin, .fr. J'ai lu un texte de moi-même, hein, L'ombre des ombres. Et puis, on a lu des textes, évidemment, de Eve Hennequin. Hein, on a lu 3 textes de Eve Hennequin. Il y en a un qui s'appelle Mater, les textes à 2 voix qu'on a lus. Et puis, l'autre qui s'appelle Tentative d'approche. Et voilà.
Super. Vous retrouverez tout ça sur le blog, de toute façon. Vas-y, Afix.
Oui, pour ma part, j'ai lu des extraits de L'homme qui penche, de Thierry Metz, de Les arbres ont un regard, de Jean-Yves Vallat. Et pas tout à fait complet, mais une partie d'une joyeuse couronne d'épines que j'ai écrit pendant le confinement.
Bravo.
Bah, je crois que Baptiste a déjà... Parce que j'ai lu un texte de Dave Hennequin, le dernier que j'ai lu, et celui d'avant de...
Damien Kerel.
Ouais. Voilà, Edgar qui était déjà venu à l'émission deux fois, je crois, et tu es bien sûr le bienvenu. Merci d'être là, et du coup, vous avez aussi pu entendre des textes de Christophe Tarkos. Voilà, donc on vous laisse avec Aretha Franklin pour mettre un petit peu de chaleur, et puis on vous laisse avec le Canu Info. Allez, bisous, à dans deux semaines. Thank you.